Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0, Les Bonnes Ondes, dans l'émission Musique au pluriel, présentée par Bruno Point et Paul Turchet. Au gré de notre parcours musical déjà substantiel, nous avons étudié, envisagé la vie et l'œuvre de grands musiciens, musiciens classiques au sens strict du terme, comme Mozart, le premier romantique sans doute, Beethoven, et puis des romantiques, et pas tous, il en restera, et nous vous les présenterons, Liszt, Schumann, Mendelssohn, Tchaïkovski. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à Maurice Ravel, dont on a pu dire qu'il était le dernier représentant d'une lignée de musiciens qui avait su renouveler l'écriture musicale sans renoncer aux principes hérités du classicisme. On l'a qualifié, comme Debussy, de néoclassique, puisqu'on aime bien les classifications. Vladimir Nkelevitch, le philosophe, musicologue, musicien, dans une biographie qu'il lui consacre, indique qu'aucune influence ne peut se flatter de l'avoir conquis tout entier. Ravel demeure jalousement insaisissable derrière tous ces masques que lui prêtent les snobismes du siècle. Une œuvre profondément originale, donc inclassable selon l'esthétique traditionnelle, surtout pas impressionniste, comme on a pu le dire. Ravel récusait, comme Debussy, cette expression, disant « l'impressionnisme, c'est la peinture, ça n'est pas la musique ». Un peintre ne fait pas de musique, un musicien ne fait pas de peinture, et il n'aimait pas du tout cette expression « impressionnisme ». Et il est inspiré des grands classiques, Couperin, Rameau et bien d'autres. Il admire Chabrier. Il va être l'élève de Fauré. Il va subir des influences de la musique du monde entier et de toutes les époques. La musique américaine avec le jazz, la musique russe à la manière de Borodine, Schubert, Saint-Saëns, Mozart. Bref, c'est une synthèse de courants musicaux extrêmement variés et complètement éclectiques. Il subira aussi l'influence de la musique espagnole, de la musique folklorique, de l'Orient. Bref, c'est un orfèvre du son, tellement méticuleux, appliqué, que Stravinsky, qui était l'un de ses grands amis, se moquait un peu de lui gentiment. Il le traitait d'horloger suisse dans la musique, tellement, effectivement, Ravel était précis. Une œuvre composée aussi d'orchestration de ses propres œuvres. On a pu dire, Marcel Marna a dit de lui qu'il était le plus grand orchestrateur français et un des meilleurs orchestrateurs de l'histoire. Avant d'envisager sa biographie plus avant, écoutons « Jeu d'eau », qui est une pièce pour piano composée en 1901, dédiée à son maître Gabriel Fauré, de source, on va dire, d'inspiration listienne, puisque Liszt a écrit des pièces de ce style au bord d'une source, « Jeu d'eau à la Villa d'Est ». Et voilà la source de cette composition de Ravel. Thank you. Maurice Ravel, né le 7 mars 1875, près de Saint-Jean-de-Luz, à Cibourg. Son enfance est extrêmement heureuse et contrairement à d'autres compositeurs, les dons musicaux de Ravel ne sont pas du tout contrariés par ses parents, au contraire, ils sont encouragés et il entre au Conservatoire de Paris en 1899. Il va se lier d'amitié et d'admiration d'ailleurs à d'autres compositeurs, un pianiste, Ricardo Vines, qui sera l'un de ses plus grands amis, un immense pianiste. Il sera admiratif de la musique de Chabrier, de Satie, de Mozart, de Saint-Saëns et de bien d'autres. Et il devient surtout l'élève dans la classe de composition de Gabriel Fauré. Il se fait connaître, si je puis dire, négativement, mais cela ne va pas le desservir, avec une série de 5 échecs au prix de Rome. 5 échecs qui ne sont pas dus à la médiocrité de ses compositions, bien au contraire, mais à des querelles de clochers, bien entendu, entre l'académisme et les tendances avant-gardistes de la musique. Peu importe, il va ensuite y renoncer à bon escient et commencer à composer avec des influences tout de suite hispaniques, orientales, fantastiques. Il compose la Rhapsodie espagnole, il compose Scheherazade, il compose son grand chef-d'œuvre pianistique Gaspard de la Nuit en 1908. Il se rend à Londres, il fait des tournées de concerts à l'étranger. C'est un très bon pianiste, mais pas un virtuose, parce qu'il ne fait pas du piano le centre de son existence. Et puis, il est influencé par Diaghilev, qui va lui demander de composer des œuvres pour le ballet. En pleine composition de son trio, il est évidemment surpris par la guerre, par la Première Guerre mondiale. Il est très patriote, il veut s'engager, mais avec 1m61 et 48 kilos, on ne veut pas vraiment de lui dans l'armée. Il réussit néanmoins à se faire engager comme conducteur d'ambulance. Il sera ensuite réformé. Il achève malgré tout, pendant cette période terrible, 6 pièces pour piano qu'on appelle sous le titre de « Le tombeau de Couperin » en forme d'hommage au maître du classicisme français. Je vous ai dit qu'il était inspiré par le grand classicisme français. Écoutons « Daphnis et Chloé », un extrait « Levé du jour », une symphonie chorégraphique qui utilise des chœurs sans paroles et qui est une vision de la Grèce antique que Ravel voulait proche de celle que les peintres français lui avait donné.
Ravel est à cheval sur deux siècles. Il est né en 1875, il mourra en 1927. En parallèle de lui, et je dirais classé dans la même famille, bien qu'il soit totalement différent, l'autre grand génie français, Claude Debussy, né un petit peu avant 1862, qui meurt un petit peu aussi avant Ravel. Ils ont tous les deux entre 50 et 55 ans lorsqu'ils décèdent, 1918 pour Debussy. Avant eux, il y a en France Saint-Saëns, que nous avons traité dans une émission. Il y a Gabriel Fauré, qui sera d'ailleurs le professeur de Ravel. Saint-Saëns, très grand musicien, nous l'avons vu dans notre émission, mais d'esprit beaucoup plus classique. Fauré, qui a su faire évoluer la musique, mais en restant aussi sur des formules très classiques. Les grands novateurs de ce début, de cette fin de 19e et début 20e, ce sont Ravel et Debussy, très différents, si ce n'est qu'on trouve quand même un point commun dans ce Daphnis que nous venons d'écouter, avec cet orchestre éminemment lisible, où on entend la mélodie d'une manière très claire, mais avec des sons qui sont vaporeux, glissants, qui évoquent la lumière du jour. Eh bien, on trouvera un peu la même chose dans La mer de Debussy, qui évoquera à merveille le fluide qu'est l'eau, et qui le fera tout à fait de la même manière, c'est-à-dire parfaitement intelligible. On écoute ça avec délice, et on le comprend, on le suit, et en même temps on se demande comment c'est possible d'avoir été aussi novateur, d'avoir aussi joué de l'orchestre, des instruments, de faire des gammes dans tous les sens, des arpèges, et que tout ça donne une masse liquide qui est absolument magnifique. Ravel aura écrit relativement peu d'œuvres. Très souvent nous parlons pour les musiciens de l'importance de leur catalogue. Souvenons-nous de Schubert, de Beethoven, de Liszt, qui ont écrit des centaines d'œuvres. Eh bien non, Ravel, c'est tout le contraire. Il a écrit 86 œuvres. Alors c'est un homme qui est, Paul l'a dit, dans le détail. Il avait d'ailleurs non seulement une réputation, mais il était d'une très grande minutie pour lui-même, d'une très grande élégance. Une de ses, je dirais, fans, en tout cas une mécène qui venait un jour, raconte dans ses mémoires, le visiter à 8h30 du matin sans avoir prévenu, l'a trouvé dans un peignoir somptueux avec un pyjama, aucune négligence, à 8h30 du matin chez lui, déjà levé. Il n'est pas question qu'il soit en caleçon. Il était extrêmement élégant du début à la fin de la journée. Il aura écrit donc peu d'œuvres, mais que des chefs-d'œuvre, et notamment sur la fin de sa vie, sur les trois dernières années, il a écrit deux concertos pour piano, alors qu'il ne voulait pas vraiment en écrire. Il a écrit deux concertos pour piano. Nous démarrons par le concerto en sol avec le deuxième mouvement qui est si fameux, qui au départ devait être une fantaisie qu'il devait lui-même jouer aux États-Unis, mais petit à petit, il en est arrivé à écrire un véritable concerto en trois mouvements qu'il a confié à la très grande pianiste qui allait devenir une grande professeure au Conservatoire de Paris, Marguerite Long, car cette œuvre, ainsi que l'a dit Paul, dépassait les capacités pianistiques de Maurice Ravel. Écoutons le deuxième mouvement qui débute, et c'est presque la moitié du morceau, par un solo au piano, ce qui est d'une grande originalité. Thank you. C'était un mélange de clarté, de jeu lumineux, de jeu transparent que l'on suit à merveille et en même temps d'une nouveauté absolue avec des dissonances mais qui ne nous choquent pas. On a là une œuvre à la fois classique et totalement moderne pour l'époque, contemporaine, en rupture avec ce qui a été composé précédemment. Il en est de même avec l'autre concerto, dit concerto pour la main gauche. Pourquoi pour la main gauche? Parce que Ravel avait été très choqué par les horreurs de la Première Guerre mondiale et avait un ami qui avait perdu le bras droit, un pianiste. Et à sa demande, il lui a donc écrit ce concerto pour la main gauche. Ce qui a, au-delà du procédé, de l'idée, de l'originalité, ce qui lui a permis aussi d'avoir une inventivité encore plus extraordinaire parce qu'il faut produire une vraie partition avec seulement la main gauche. Par contre, la collaboration avec Paul Wittgenstein s'est mal passée, malheureusement, dans la mesure où le pianiste n'a pas saisi la grandeur de l'œuvre et a voulu l'adapter et l'a arrangée en pensant que c'était une œuvre qui n'était pas pianistiquement abordable. Elle était d'ailleurs extrêmement difficile, donc il l'a arrangée, simplifiée et je dirais presque rendue plus accessible. Aujourd'hui, on sait que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je vous invite à écouter en deux temps. D'abord, la première partie de l'œuvre, c'est une œuvre en un seul mouvement, inspirée, le disait lui-même Ravel, de Saint-Saëns et de Liszt, Liszt dans son deuxième concerto, qui est lui aussi d'un seul tenant. Donc je vous invite à écouter la première partie, où là on a un choc et on se demande d'où cela sort. On a l'orchestre qui se crée tout seul, on a l'impression d'assister à la création du monde avec vous allez le voir, un son dont on se demande ce qu'il est, qui petit à petit s'amplifie pour devenir une mélodie très forte, très puissante. Et le piano arrive et le piano va calmer tout ça avec une mélodie sereine, très comparable d'ailleurs à celle du concerto en sol. au-delà de la très grande beauté de l'œuvre, ce qui est fascinant chez Ravel, c'est l'extrême économie. Et cette économie, d'ailleurs, génère une partie de la beauté. Que ce soit les tutti d'orchestre, il n'y a pas de notes inutiles, il n'y a pas d'instruments inutiles. Et on passe d'un tutti d'orchestre à un piano avec quelques sons égrenés, une économie de notes où tout est dit, l'essentiel, l'important est là, il n'y a jamais rien de superflu. Continuons dans ce concerto de la main gauche, pour la main gauche, avec sur sa deuxième partie la cadence, c'est-à-dire le moment où le piano est seul et entre guillemets résume un petit peu l'œuvre pour déboucher sur le final de l'œuvre.
Thank you.
La guerre terminée avec la mort de Debussy en 1918, et Ravel devient de fait le plus grand compositeur français. Il va composer plus lentement, selon sa propre expression, avec un dépouillement poussé à l'extrême, et Bruno parlait d'économie, c'est tout à fait cela, en s'ouvrant à diverses innovations. Il acquiert une propriété à Montfort-l'Amaury qui va être le siège, le point de ralliement de tout le cénacle ravelien, avec de très grands interprètes, pianistes, et avec de grands compositeurs, Honegger, Jacques Ibert et d'autres. Nous allons écouter pour le piano, parce que Ravel l'a orchestré aussi pour cette pièce, Pavane pour une infante défunte, une magnifique pièce, une œuvre pour laquelle Bruno éprouve beaucoup d'émotions.
extrême dépouillement qui donne, dans son épurement, encore plus de beauté à la source de l'œuvre. Ravel est aussi, quelqu'un qui est donc économe dans ses moyens, est un homme très cérébral. Et il aura l'occasion d'écrire une œuvre très fameuse, le Boléro, que nous ne passerons pas, tout le monde le connaît, c'est peut-être l'œuvre la plus jouée au monde. Mais il a écrit aussi une autre œuvre qui est une quintessence, qui est une idée, c'est la valse. Sur l'inspiration d'une grande mécène de l'époque, Missia Sert, qui avait vécu plusieurs mariages avec des gens à la fois cultivés et puis un banquier propriétaire de journaux, qui l'avait d'ailleurs soutenu lorsque, et c'est amusant de voir ça aujourd'hui, mais personne n'est maître de son époque, Ravel a quand même, alors qu'il est clairement un des deux ou trois plus grand compositeur français, échoué plusieurs fois au prix de Rome, il ne devait pas être dans les canons. Et donc Missia, certes, s'était élevé contre cet échec et l'avait consolé. Elle a introduit dans ses cénacles, dans ses salons, et notamment auprès de Diaghilev, pour qui il composa Daphnis et Chloé, que nous avons écouté, et pour qui il écrit aussi la valse, pour un ballet, mais que Diaghilev refusera en disant cette phrase assez merveilleuse. C'est un chef-d'œuvre, mais ça n'est pas un ballet, c'est le portrait d'un ballet. On est là dans le cérébral pur, écoutons la valse qui est l'émanation, l'évanescence d'une valse.
En 1928, Ravel connaît une consécration internationale. Il va aux États-Unis, au Canada. Il fait une tournée triomphale. Il fréquente les clubs de jazz de Harlem et rencontre le jeune George Gershwin qui a écrit la Rhapsody in Blue. Gershwin lui demande de lui donner des cours et Ravel refuse en lui disant, en substance, « Je ne vous donne pas de cours, continuez sur votre propre voie, elle est formidable. Je ne pourrais vous apprendre qu'à faire du mauvais Ravel. » Il y a cette année-là, Bruno l'a dit, le Boléro, dont Ravel était en quelque sorte furieux de voir le succès mondial de cette œuvre, parce qu'il disait que c'est une partition vide de musique. c'est assez extraordinaire, les contrastes de la vie. Il va composer ses derniers chefs-d'œuvre, nous en avons parlé, en 1929, à 31, notamment les deux concertos. Et puis, à partir de 1933, il est atteint, et cela s'aggrave en fait, d'une maladie cérébrale incurable et qui va l'empêcher d'écrire, l'empêcher de se mouvoir, l'empêcher de parler et empêcher une œuvre à laquelle il travaillait et qu'il avait formé beaucoup d'espoir. C'est un opéra Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc ne verra jamais le jour et Ravel décède le 28 décembre 1937, donc 62 ans, après une tentative désespérée de le sauver par une opération chirurgicale. Écoutons une pièce inspirée également de l'Espagne, Alborada del Gracioso.
Nous avons écouté au cours de cette émission « Jeu d'eau » par Martha Argerich, « Le lever du jour » de Daphnis et Chloé par Pierre Boulez, dirigeant la Philharmonique de Berlin, le deuxième mouvement du concerto en sol par Samson François avec André Cluytens, puis deux larges extraits du concerto pour la main gauche toujours par Samson François et Cluytens. Je vous invite d'ailleurs à regardez sur YouTube, il y a une vidéo de ce concerto par Samson François, avec j'ai en tête cette phrase merveilleuse de Vlado Perlemutter, très grand pianiste français, à qui on demandait « Mais maître, comment faites-vous pour jouer avec une seule main sur tout le clavier ?» Et il avait répondu « Oh, c'est très simple, je prends un banc qui glisse bien et je me déplace. » Après ce concerto, nous avons écouté la pavane pour une infante défunte par Bertrand Chamaillou, très bon pianiste, jeune pianiste contemporain, enfin qui prend un petit peu d'âge parce que ça fait 15 ans qu'il est jeune. Il reste jeune, mais il est maintenant une star mondiale. Puis la valse par Mikko Franck, dirigeant l'orchestre philharmonique de Radio France, et à nouveau Bertrand Chamaillou dans Alborada del Gracioso, extrait des miroirs. Nous oserons tout simplement pour notre prochaine émission parler, évoquer, essayer d'exprimer Claude Debussy, le contemporain de Ravel, et son pendant musical, les deux grands génies du début du siècle. Eh bien, passez du bon temps et profitez de l'été qui est là. À bientôt sur Radio B.
À bientôt.